Bonjour et bienvenue dans ce journal qui vous apporte les dernières informations et des reportages exclusifs. Au micro, Nanit Talani, tout de suite les titres. Plus de 17 morts et près de 370 blessés, c'est le bilan des combats qui continuent de faire rage entre les FRDC et le M23 dans l'Est congolais. Le Tchad tiendra ses élections sénatoriales le 25 février 2025, devant marquer la fin de la transition politique. Le patron de l'ONU demande à Washington d'accorder des exemptions supplémentaires à l'arrêt de l'aide américaine. Au cœur de nos dossiers du jour, la recrudescence de violences contre les femmes et les filles et les cas de viol qui font débat au Tchad. Une pétition est lancée.
Presque 500 personnes qui ont signé cette pétition. Certes, on n'a pas atteint notre limite, mais dans les jours à venir, on continuera à pouvoir communiquer dessus pour pouvoir atteindre cette limite.
En économie, retour sur le rappel massif de produits Coca-Cola en Europe pour teneur élevée en chlorate. On n'oublie pas le sport, mais d'abord le journal. Les combats continuent à Goma, à la frontière du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces congolaises et les combattants du groupe armé M23, alliés à des groupes rwandaises, faisant 17 morts et près de 370 blessés. Le point avec Eric Maniragiza.
Dans le centre de la cité, des détonations d'artillerie soutenues et d'intenses rafales d'armes légères ont résonné une grande partie de la journée. En fin d'après-midi, les tirs étaient moins fréquents, mais toujours nourris vers l'aéroport. La chef du CICR au Nord Kivu, en soutien dans plusieurs hôpitaux de la ville, parle de l'afflux massif de blessés, majoritairement des civils. Certains soldats congolais sont passés du côté rwandais, passant la frontière à quelques kilomètres pour rendre les armes, selon la radio-télévision rwandaise, confirmée par des sources onusiennes. D'autres ont pris la fuite par bateau sur le lac Kivu. Le gouvernement congolais a assuré vouloir éviter le carnage, selon son porte-parole Patrick Muyaya, qui a posté sur X la première réaction officielle congolaise depuis l'entrée dans la ville du M23 et ses alliés. L'avancée rapide du M23 vers Goma, doublée d'une escalade diplomatique entre la RDC et le Rwanda, ont abouti à la convocation par Nairobi d'une rencontre Tshisekedi Kagame mercredi, a annoncé lundi le Kenya. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra pour sa part ce mardi à la mi-journée une session d'urgence sur cette crise. Une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola avait échoué en décembre faute d'accord. Selon l'ONU, 400 000 personnes ont été déplacées par les combats depuis début janvier.
La communauté de développement de l'Afrique australe a condamné l'attaque du M23 dans l'est de la RDC, soulignant que ces actions violent la souveraineté et la sécurité de Kinshasa et de la région. Le M23 a tué 12 soldats de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. La SADC a réaffirmé son soutien à la RDC pour préserver son indépendance, sa souveraineté et promouvoir la paix. L'organisation a également critiqué le M23 pour avoir entravé le processus de paix de Nairobi. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a condamné lui aussi l'attaque sur Goma menée par le groupe M23 soutenu par le Rwanda. Lors d'un appel avec le président congolais Félix Tshisekedi, il a réaffirmé le respect des États-Unis pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Au Tchad, les élections sénatoriales se tiendront le 25 février, a annoncé l'Agence nationale de gestion des élections. Il s'agit de la dernière échéance de la transition politique entamée à la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2023. Les précisions de Mohamedou Oumfa.
La convocation du corps électoral qui sera faite par décret permettra la tenue effective des élections le 25 février 2025, a annoncé le président de l'Agence nationale, Ahmed Bartiré, dans un communiqué dédié à l'élection sénatoriale. Ce sont au total 16 formations politiques qui participent à ce scrutin. Ils ont présenté au total 119 candidats, dont 71 hommes, soit 60%, et 48 femmes, soit 40%, détaille le communiqué de l'agence. La liste définitive des candidats devra être validée au plus tard, le 1er février, par le Conseil constitutionnel. Au Tchad, les sénateurs représentent les collectivités autonomes pour un mandat de 6 ans. 2/3 d'entre eux sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des conseillers communaux et provinciaux. 1/3 des sénateurs sont nommés par le président de la République.
Le Soudan du Sud a annoncé lundi la levée du couvre-feu nocturne imposé au début du mois après qu'une manifestation anti-soudanaise dans la capitale Djouba a dégénéré en pillage. Le point avec Rosine Munezero.
Il y a 10 jours, des manifestations avaient éclaté dans la capitale Djouba à la suite d'informations selon lesquelles 29 Sud-Soudanais avaient été tués lors d'affrontements au Soudan voisin. Ils avaient ensuite dégénéré en pillage de commerces appartenant à des Soudanais. Le Soudan du Sud avait alors instauré le 17 janvier un couvre-feu nocturne au lendemain de la mort de plusieurs personnes à l'issue d'une manifestation ayant dégénéré en pillage de commerces appartenant à des Soudanais qui se sont propagés à d'autres villes du pays. La police avait tiré des coups de feu jeudi soir pour disperser un rassemblement organisé dans la capitale Djouba pour protester contre des informations faisant état du meurtre des 29 citoyens sud-soudanais à Wad Madani, dans l'état d'Al Jazeera, au Soudan voisin. L'incident a entraîné des tirs qui ont fait 3 morts et 7 blessés, avait déclaré le porte-parole de la police, le colonel John Kassara. Maintenant, la situation est calme et s'est normalisée. C'est pourquoi le couvre-feu est levé, a indiqué le porte-parole de la police.
Un Nigérian poursuivi aux États-Unis pour un chantage sexuel sur Internet ayant conduit un adolescent au suicide a été arrêté dans son pays, remis le 24 janvier à des agents américains à Lagos et extradé, ont annoncé hier les autorités judiciaires américaines. Hassan Bounoussen Abolore Alawal, 24 ans, est accusé d'avoir amené Gavin Goufi, 17 ans, en se faisant passer sur les réseaux sociaux pour une jeune femme, à lui envoyer des photos compromettantes, précise le ministère américain de la Justice. Il lui a ensuite extorqué de l'argent et harcelé par message, le menaçant de diffuser les photos avant d'exercer les mêmes pressions sur sa famille. Gavin Goufi, la victime, s'est suicidé en juillet 2022 à Rock Hill, en Caroline du Sud.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU a appelé hier l'administration Trump à ajouter des exemptions supplémentaires à son gel de toute aide à l'étranger, une mesure de Washington qui exclut uniquement l'Égypte, Israël et l'assistance alimentaire d'urgence. Eddie Sango nous en dit plus.
Antonio Guterres a pris note avec inquiétude de la décision du nouvel exécutif américain et appelle à ce que des exemptions supplémentaires soient étudiées, indique un communiqué de son porte-parole Stéphane Dujarric. Cela pourrait permettre la poursuite de la livraison d'aide pour les plus vulnérables dans le monde, dont les vies dépendent de ses soutiens, ajoutent les communiqués. Les États-Unis, le principal pourvoyeur d'aide humanitaire et au développement dans le monde, y consacre environ 1% du budget du gouvernement fédéral. L'ancien président démocrate Joe Biden a s'en félicité, mais Donald Trump, dès son premier jour au pouvoir, le 20 janvier, a signé un décret ordonnant de geler l'aide étrangère des États-Unis pour 90 jours, le temps d'un réexamen complet pour voir si elle est conforme avec la politique qu'entend mener le nouveau président républicain. Son chef de la diplomatie, Marco Rubio, a précisé vendredi dans une circulaire que cela ne s'appliquerait pas à Israël et les Égypte, parmi les plus importants bénéficiaires de l'aide militaire des États-Unis, ni à l'aide alimentaire d'urgence, ce qui devrait bénéficier notamment à la bande de Gaza après le cessez-le-feu conclu entre Israël et les Hamas palestiniens. Mais le texte ne fait aucune mention de l'Ukraine.
Matthew Hurtle, un homme gracié par Donald Trump pour sa participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, a été abattu par la police de l'État de l'Indiana après avoir résisté à une arrestation. âgé de 42 ans. Il a été tué par un agent de la police lors d'une confrontation où il portait une arme à feu. Hartle avait été condamné à 6 mois de prison et libéré en juillet, faisant partie des personnes concernées par les grâces présidentielles de Trump qui ont suscité des critiques, notamment pour leur portée envers les auteurs des violences contre des forces de l'ordre. Voilà pour les infos. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voici à présent les points essentiels à retenir des dernières tendances économiques et financières sur le continent africain et ailleurs. Nous invitons Eric Komaneragiza.
L'UNESCO a organisé lundi à Addis Abeba une conférence réunissant des représentants des 54 États du continent pour échanger sur la question de la restitution et du retour des biens culturels en Afrique. En France, quelques 90 000 objets d'Afrique subsaharienne sont conservés dans les musées publics, dont 79 000 au Quai Branly, selon un rapport de 2018. D'autres pays, notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne, font l'objet de demandes et de restitutions de biens culturels pillés durant la colonisation. L'embouteilleur européen de Coca-Cola a annoncé lundi un rappel massif de produits en Europe en raison d'une teneur trop élevée en chlorate, un sous-produit du chlore, tout en assurant que le risque sanitaire était selon lui très faible. Ce rappel concerne des canettes et des bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, etc. en circulation depuis fin novembre.
Retrouvons maintenant Yacouba Ouedraogo pour notre segment sportif avec à la une, bien évidemment, le tirage au sort de la CAN Maroc 2025. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Les différents groupes ont été bien constitués suite au tirage au sort de la CAN Maroc 2025 qui a eu lieu à Rabat.
Oui, la cérémonie a eu lieu au Théâtre National Mohamed V de Rabat au Maroc. Les 24 équipes participantes ont été réparties en 6 groupes de 4. Sur papier, Côte d'Ivoire-Cameroun reste la plus belle affiche du premier tour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Après le match d'ouverture le 21 décembre à Rabat contre les Comores, les Marocains devront affronter la Zambie qu'ils avaient battue il y a un an en poule, permettant à la Côte d'Ivoire justement de se qualifier parmi les repêchés.
On fait le point avec notre consultant sportif sur place, Amine Birouk.
Le tirage au sort de la CAN 2025 a été plutôt clément pour le pays organisateur. En effet, le Maroc devra en découdre au premier tour avec les Aigles du Mali, la Zambie, un adversaire qu'il retrouvera pour la quatrième fois en moins de 22 mois, et les Comores qui disputeront la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Les Lions de l'Atlas devront toutefois rester vigilants face à des rivaux qui ne nourriront aucun complexe. Idem pour le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, obligée de sortir le grand jeu devant un Cameroun à la recherche de son glorieux passé, d'un Gabon capable du meilleur comme du pire, ou du petit poussé mozambicain. Mais a priori, les éléphants, pour peu qu'ils hissent leur niveau de jeu, sont au-dessus du lot. En revanche, l'Égypte sera en grand danger dans le supposé groupe de la mort face aux défis de l'Afrique du Sud, de l'Angola et un degré moindre du Zimbabwe. Les autres ténors pourront monter en puissance lors du premier tour, notamment le Nigeria opposé à la Tunisie, à la Tanzanie ou à l'Ouganda. Au Sénégal, qui hormis le danger représenté par la RDC, peut voir venir devant le Bénin ou le Botswana. Ou pour le binôme Algérie-Burkina Faso, qui semble un cran au-dessus de la Guinée équatoriale et du Soudan. Toutefois, il reste 11 longs mois pour les ténors, les troubles faits et les outsiders pour bien préparer ce rendez-vous marocain, marquer leur territoire et afficher leurs ambitions. En leur rappelant bien sûr qu'ils seront 24 au départ et que c'est la sélection qui saura faire preuve de solidité et de résilience pourra brandir ce précieux trophée le dimanche 18 janvier 2026 à Rabat. Depuis la capitale du Maroc, Rabat justement, c'est Amine Birouk pour la VO Afrique.
Merci Amine.
Du basketball à présent, ici en NBA, le Heat suspend de nouveau Jimmy Butler.
Le Miami Heat suspend Jimmy Butler sans salaire avec effet immédiat pour une période indéterminée qui ne durera pas moins de 5 matchs, a précisé la franchise NBA dans un communiqué publié sur X. Jimmy Butler a été sanctionné pour avoir quitté une séance d'entraînement. D'après des médias, le joueur aurait marqué son mécontentement de ne pas figurer dans le 5 majeur pour le match de NBA contre l'Orlando Magic. Cette suspension est due à une attitude constante de mépris des règles de l'équipe, provoquant une conduite au détriment de l'équipe. notamment un départ de l'entraînement dans la journée, ajoute le HIT. C'est la troisième fois ce mois-ci que Boutler est suspendu.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Namit Talani de nouveau avec vous pour vous présenter nos dossiers du jour avec des reportages uniques. Au Tchad, la recrudescence de violences faites aux femmes et aux filles et des cas de viol fait débat. Même des agents de la police sont accusés d'être impliqués et sont sous la procédure de sanctions disciplinaires. Une situation qui a poussé la Ligue tchadienne des droits de la femme à mettre en ligne une pétition internationale pour lutter contre ce fléau et pour exiger des actions urgentes des autorités et des organisations humanitaires. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Une pétition est lancée suite à l'agression sexuelle présumée d'une jeune lycéenne dans un sous-poste de police du 7e arrondissement de la capitale. La Ligue tchadienne des droits de la femme entend recueillir 1000 signatures en 30 jours pour exiger des autorités de N'Djamena et autres acteurs humanitaires des actions fortes et urgentes pour garantir la sécurité des femmes.
Il y a presque 500 personnes qui ont signé cette pétition. Certes, on n'a pas atteint notre limite, mais dans les jours à venir, on continuera à pouvoir communiquer dessus pour pouvoir atteindre cette limite.
Epiphanie Diawara est la présidente de la Ligue tchadienne des droits de la femme. Répondant à la préoccupation de ces femmes, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, signe dans la foulée une ordonnance portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et des filles. Tout en saluant la bonne volonté des autorités à travers la prise de cette ordonnance, elle soulève toutefois l'incohérence dans ce texte qui, selon elle, n'est pas de nature à éradiquer le phénomène, surtout en ce qui concerne l'avortement.
L'avortement est qualifié de violence. Cette formulation pose vraiment un sérieux dilemme, car on ignore la réalité des femmes et des filles qui sont confrontées à des grossesses non désirées, notamment à la suite de viols ou incestes. Elles sont condamnées à porter ces grossesses, donc si c'est le cas, cela représente une violence psychologique et physique qui ne fait qu'aggraver leur souffrance. Parce qu'actuellement, nous faisons des plaidoyers pour la ratification du protocole de Maputo qui permet d'autoriser l'avortement sécurisé. Et l'ordonnance qui semble faire l'amalgame entre l'avortement et la violence montre que le Tchad n'est pas encore prêt pour pouvoir ratifier ce protocole.
Pour le sociologue Félix Mbeté-Nambatna, la recrudescence des violences physiques et psychologiques faites aux femmes a un facteur commun lié à l'impunité.
La plupart des coupables arrivent à échapper dans les mailles des filières, des systèmes de services de sécurité. Et surtout ces derniers temps, des responsables eux-mêmes, comme la police à N'Djamena, qui devait protéger les mineurs, c'est eux qui les violent. Je disais, en tant que sociologue, il y a quelques années, le Tchad, c'était un peu l'âge de la malhonnêteté. Mais maintenant, nous sommes arrivés à l'âge de l'irresponsabilité. C'est ceux à qui l'État confie le pouvoir de protéger la population. C'est eux-mêmes qui en abusent ou sont complices. C'est ça le mot.
Madame le ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Pressel Longo, exige la radiation des policiers présumés violeurs et estime que l'ordonnance prise par le chef de l'État peut contribuer à réduire ce phénomène qui gangrène la société.
Pour nous, les droits des femmes ne sont pas négociables. Et peu importe la personne qui exerce une violence, que ce soit physique, sexuelle, psychologique, contre les femmes, subira la rigueur de la loi. Le chef de l'État vient de signer l'ordonnance portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Tchad. Et vous allez aussi suivre d'ici là des grandes décisions qui montreront encore davantage la rigueur de la loi qui sera appliquée à l'encontre de tous les contrevenants.
La Ligue tchadienne des droits de la femme affirme qu'elle a enregistré au courant de ce mois de janvier plus d'une quinzaine de cas de féminicides et de viols au Tchad. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad. Au Sénégal, il ne sera bientôt plus possible de rouler en deux roues motorisées sans permis de conduire et sans plaque d'immatriculation. Le secteur est jusqu'ici largement informel, mais les nouvelles autorités ont lancé une grande opération de régularisation qui s'étend jusqu'au 13 mars. C'est un reportage d'Alison Fernandez.
Dans le quartier de Grand Yoff à Dakar, ces jeunes vivent de la livraison. Tous ont investi dans une moto il y a plusieurs années et subviennent ainsi aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, ils sont préoccupés. Une circulaire parue le 13 décembre leur donne 3 mois pour se mettre en règle et immatriculer leur moto. Mais Adam Allo ne parvient pas à réunir tous les papiers nécessaires, notamment la pièce d'identité légalisée du vendeur de sa moto.
C'est impossible dans ce cas, comme pour ceux dont le vendeur a quitté le pays. Certains ont bradé leur moto à 300 000 francs CFA au lieu de 500 000 avant de voyager et partir. Si l'acheteur de moto n'a plus de contact avec le vendeur, ça fera une perte pour lui.
Ces dernières années, le nombre de mototaxis a connu une croissance fulgurante au Sénégal, particulièrement à Ziguinchor, Kaolack ou Dakar. On estime qu'il y a plus de 500 000 mototaxis, communément appelés Jakarta ou Tiak Tiak dans le pays. Un chiffre qui reste approximatif, le secteur étant largement dominé par l'informel. Seydina Alioune-Fall est le président national des livreurs Tiak Tiak du Sénégal. Il demande aux autorités de faire preuve de flexibilité, mais se réjouit de la grande opération de régularisation.
Notre combat, c'est d'aller vers les autres étatiques pour qu'ils nous aident à assainir le métier, parce que nous voulons un secteur assaini, sécurisé et rationalisé. Raison pour laquelle nous nous battons tous les jours pour que tous les conducteurs de roues aillent faire leur mutation gratuite. Dans ce cas, ça pourrait nous permettre d'identifier qui est livreur, qui est agresseur, qui est malfaiteur. Parce qu'il y a des malfaiteurs qui ont à l'intérêt de notre métier.
En 2 semaines, le ministère des Infrastructures et des Transports a immatriculé 8000 motos contre 20000 sur toute l'année 2024. Pour Mandiaï Fay, directeur de la circulation routière et de la mobilité, l'opération est en bonne voie.
Le gouvernement du Sénégal a vraiment initié des facilités, des dispositifs de facilité, notamment pour accéder à la légalisation de documents d'immatriculation, comme l'acte de vente au niveau des commissariats. Jusqu'au 13 mars, l'immatriculation reste gratuite. L'usager ne s'acquittera que des droits de plaques d'immatriculation et de cartes grises qui sont confectionnées par un autre concessionnaire.
Soit un montant de 28 000 francs CFA. Actuellement, le centre de Colobane est le seul à Dakar où il est possible de faire immatriculer sa moto. Cependant, le ministère annonce que dès la semaine prochaine, 4 nouveaux sites seront opérationnels. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, Tom Homan, le responsable de la politique frontalière du président Donald Trump, a déclaré dimanche que la priorité actuelle de l'administration était d'expulser les immigrés sans papier, considérés comme des menaces pour la sécurité du pays. Mais il a souligné que l'immigration illégale en général ne sera pas tolérée. Le reportage est de Véronica Baderas Iglesias de la VOA. Le récit est de Rosine Munezero.
L'administration Trump a commencé la semaine dernière à expulser des centaines de migrants ayant un casier judiciaire et se trouvant illégalement aux États-Unis. L'opération d'expulsion pourrait être étendue à tous les sans-papiers, a déclaré le responsable de la politique frontalière, Tom Homan, lors d'une interview dimanche à l'émission This Week de la chaîne ABC.
Pour l'instant, il s'agit de contrer les menaces à la sécurité publique, les menaces à la sécurité nationale. Il s'agit d'une population plus restreinte. Nous allons donc le faire sur une base prioritaire, comme l'a promis le président Trump. Mais au fur et à mesure, il y aura plus d'arrestations dans tout le pays.
Mardi, les restrictions ont été levées pour les agents des services de l'immigration et des douanes, ainsi que pour les agents des douanes et de la protection des frontières, pour appliquer les lois sur l'immigration dans des lieux sensibles tels que les églises, les écoles et les hôpitaux. M. Homan a précisé que ces arrestations seraient effectuées au cas par cas.
Les agents de l'immigration devraient avoir le pouvoir discrétionnaire de décider si une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité publique se trouve dans l'un de ces édifices. Ils devraient alors avoir la possibilité de procéder à l'arrestation.
Les mises en garde et l'approche de l'administration Trump en matière d'immigration ont été critiquées par la sénatrice démocrate Elissa Slotkin.
Je pense que c'est plus un signal pour essayer d'empêcher les gens de venir à la frontière dans le but d'entrer. Et cela fait partie de cette transition qu'ils n'ont pas encore faite entre la campagne et le gouvernement.
Le président Donald Trump a instruit à l'armée américaine de contribuer à la sécurité des frontières. Les avions de l'armée américaine sont déjà utilisés pour les expulsions, mais le rôle de l'armée devrait rester conforme à la Constitution, a souligné la sénatrice Slotkin.
Selon notre Constitution, vous pouvez jouer un rôle de soutien, de logistique, de conduite, de mise en place d'installations, d'emplacements frontaliers, etc. C'est très différent lorsque vous franchissez la ligne de l'application de la loi.
Quelques 1500 militaires en service actif ont commencé à arriver à la frontière avec le Mexique la semaine dernière et leur nombre pourrait augmenter dans les jours à venir. Tom Homan a déclaré dimanche que la présence des troupes envoyées, je cite, « un signal fort au monde que notre frontière est fermée ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Pour clore ce dossier du jour, les voyageurs entrant aux États-Unis via un aéroport ou un point d'entrée terrestre rencontrent souvent des agents de douane et de surveillance des frontières. Mais ces agents sont également chargés d'inspecter les marchandises qui quittent le pays. Inspecter tous les véhicules pourrait s'avérer difficile. Steve Herman nous en dit plus. Le récit est de Dini Niwa.
Les douanes américaines et la protection des frontières ont une mission presque impossible. Essayer d'intercepter toutes les voitures volées qui quittent le pays. Ici au port de Baltimore, les centaines de véhicules que les agents découvrent chaque année sont principalement destinés à une région particulière du monde, selon Adam Rothman du CBP.
Je dirais que 90 à 95% des véhicules volés sont destinés à l'Afrique de l'Ouest.
Selon Alex Piquero, professeur de criminologie à l'université de Miami, le vol de voitures est un problème qui prend de l'ampleur aux États-Unis.
Il y a des gens qui volent des voitures et des pièces détachées pour les vendre très rapidement sur les marchés locaux. Et puis il y a des gens qui volent littéralement des voitures, les mettent sur des conteneurs et les vendent, les expédient dans le monde entier, pas seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et en Asie.
Le CBP utilise des machines à rayons X géantes et mobiles pour scanner les conteneurs et décider de les ouvrir si elle les considère suspects. Le manifeste de ce conteneur ne mentionnait aucun véhicule, explique le directeur du CBP au port de Baltimore, M. Rothman.
Le conteneur n'est censé contenir que des articles ménagers. Dans ce cas, il y a au moins 3, probablement 4 voitures dans ce conteneur.
Cette Mercedes-Benz de 2021, d'une valeur de 48 000 $, a été achetée frauduleusement dans l'État de l'Ohio avec une identité volée. Elle a été interceptée ici, dans le Maryland, et devait être expédiée au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest.
Ce conteneur vient d'être ouvert aujourd'hui. Le véhicule au-dessus, la Honda, nous avons déjà vérifié grâce au numéro d'identification qu'il s'agit d'une voiture volée. Il y en a 2 autres à l'arrière.
Les forces de l'ordre affirment que les criminels louent souvent des voitures pour une période de 30 jours. Conduisent les véhicules directement dans un conteneur et collent un faux numéro d'identification du véhicule sur le vrai. La voiture ne sera pas déclarée volée avant 1 mois. D'ici là, elle pourra déjà se trouver sur un navire en haute mer. L'équipe de M. Rothman espère intercepter ces voitures avant qu'elles ne prennent la mer.
Nous avons remarqué que le chiffre sur le VIN ne correspond pas à ce qui est censé être sur un camion Ford.
Les autorités de certains pays d'Afrique collaborent désormais avec Interpol pour tenter de saisir les véhicules volés qui ont réussi à échapper au contrôle des ports américains. Mais cette coopération n'est pas systématique, selon le professeur Piquero.
Certains gouvernements sont plus gentils que d'autres et il n'est pas possible de fouiller tous les conteneurs. C'est pourquoi la sécurité dans les ports est si importante.
Avec autant d'acheteurs à la recherche d'une voiture d'occasion, souvent sans poser de questions, il est peu probable que l'on assiste à un ralentissement du trafic mondial de véhicules volés.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal présenté par Nanit Talani avec le concours de Georges Léonard Sagnot à la réalisation et de Calvin Fowler à la technique. Merci d'avoir suivi cette session d'information. N'allez nulle part ailleurs. Nous vous tiendrons informés des derniers développements tout au long de la journée. Pour plus d'informations et des mises à jour en temps réel, retrouvez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux. Au revoir, à très bientôt.